Salut tout le monde, bienvenue à un nouveau Deep Dive. On s'attaque aujourd'hui à la régionalisation avancée au Maroc.
Un sujet passionnant.
Ah oui, c'est un sujet pointu, mais qui a un impact énorme sur l'avenir du pays.
Tout à fait.
Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, on va décortiquer ensemble un document officiel du gouvernement marocain qui propose un cadre pour accélérer cette régionalisation.
Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce document, il ne se contente pas de regarder vers l'avenir. Il dresse un bilan des progrès déjà accomplis depuis la mise en place du système de régionalisation en 2015.
Ah oui, 2015. C'est la création des 12 régions, si je me souviens bien.
Exactement.
À l'époque, il y a eu le lancement de 114 programmes de développement. C'est énorme.
Oui.
Mais concrètement, sur quoi portaient ces programmes? Quels étaient les objectifs? Et surtout, qu'est-ce qu'on a réussi à accomplir?
Alors, ces programmes, ils ont ciblé des domaines clés comme les infrastructures,
d'accord,
l'éducation, la santé, mais aussi l'agriculture et le tourisme. On peut dire qu'ils ont permis de poser des bases solides, notamment en renforçant les infrastructures dans certaines régions,
oui,
et en améliorant l'accès aux services de base.
Donc, si je comprends bien, on part d'un constat plutôt positif.
Oui, globalement.
Mais alors, pourquoi ce besoin d'accélérer la régionalisation? Qu'est-ce qui bloque?
C'est là que ça devient intéressant. Le document, il met le doigt sur un problème majeur, les disparités régionales.
Ah oui, bien sûr.
Malgré les progrès, certaines régions restent à la traîne. Il y a un manque de coordination entre les différents acteurs.
Mm-hmm.
Et puis, mobiliser les ressources nécessaires n'est pas toujours évident.
D'accord, je vois. C'est pour répondre à ces défis que ce nouveau cadre est proposé. Mais du coup, quels sont ces objectifs? Où est-ce qu'on veut aller avec cette régionalisation avancée?
Le document, il est très clair là-dessus.
Oui.
Il vise trois objectifs principaux. Premièrement, renforcer la gouvernance régionale.
D'accord.
En donnant plus d'autonomie aux régions.
Deuxièmement, stimuler le développement économique et la cohésion sociale à l'intérieur de chaque région.
Oui.
Et troisièmement, assurer une distribution plus juste des ressources et des opportunités dans tout le pays.
Waouh, ça semble ambitieux. Mais comment on compte s'y prendre concrètement? Le document rentre-t-il dans les détails?
Absolument. Il propose des mesures très concrètes dans des domaines clés,
oui,
comme les infrastructures, l'investissement, l'éducation, la santé.
D'accord, c'est intéressant. Prenons l'exemple des infrastructures. De quoi parle-t-on exactement?
Par exemple, on parle d'améliorer les réseaux de transport, d'énergie et d'eau dans des régions spécifiques.
Et en matière d'investissement, quelles sont les pistes envisagées?
L'idée, c'est d'attirer les investissements,
oui,
aussi bien nationaux qu'étrangers,
d'accord,
pour booster la croissance économique de chaque région. Le document, il propose des mesures pour faciliter l'accès au financement.
Créer un environnement favorable aux entreprises et mettre en avant le potentiel de chaque région.
Tout cela semble prometteur. Et du côté de l'éducation et de la santé, qu'est-ce qui est prévu?
L'objectif, il est clair. Améliorer l'accès à une éducation de qualité et à des services de santé performants.
Oui.
En particulier dans les régions qui ont été un peu délaissées jusqu'à présent.
Bien sûr.
L'idée, c'est de réduire les inégalités. Et d'assurer une bonne qualité de vie à tous les citoyens, où qu'ils vivent au Maroc.
On sent vraiment une volonté de changement profond.
Oui.
Et j'imagine que pour mener à bien un tel projet, il faut une vision à long terme.
Exactement.
C'est le cas ici.
Tout à fait. Le document, il met l'accent sur trois piliers pour l'avenir. L'innovation, la durabilité et la participation citoyenne.
Trois piliers importants.
Oui.
Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Alors, l'idée, c'est d'encourager chaque région à trouver des solutions innovantes.
D'accord.
Adaptées à ses besoins, à se développer de manière durable. Sur le plan environnemental et social. Et à impliquer ses habitants dans les prises de décision.
C'est une approche très participative.
Oui.
Mais comment est-ce qu'on encourage l'innovation au niveau régional? Concrètement, quelles sont les mesures proposées?
Le document propose des pistes concrètes.
Oui.
Par exemple, la création de pôles d'innovation régionaux.
D'accord.
Le soutien aux start-up et aux PME qui innovent. Et la promotion de la recherche et du développement au niveau local.
Donc, on mise sur le potentiel de chaque région.
Exactement. L'idée, c'est de faire de chaque région un véritable moteur d'innovation et de créativité.
C'est passionnant. Et qu'en est-il de la durabilité? Comment le document s'assure-t-il que le développement de chaque région respecte l'environnement?
Alors là, il est question d'intégrer les principes du développement durable dans toutes les politiques régionales.
D'accord.
De promouvoir les énergies renouvelables.
Oui.
De gérer durablement les ressources naturelles et bien sûr de protéger l'environnement.
Donc on prend en compte l'impact environnemental dès le départ.
Absolument. L'objectif, c'est de concilier le développement économique avec la préservation de l'environnement pour les générations futures.
C'est une vision très responsable. Et pour finir, parlons de la participation citoyenne. Comment le CALP propose-t-il d'impliquer les citoyens dans ce projet?
Le document propose la mise en place de mécanismes de consultation et de dialogue avec les citoyens, le renforcement des instances de gouvernance locale et une plus grande transparence dans la prise de décision.
Donc, on donne la parole aux citoyens.
Exactement. Bref, il s'agit de donner aux citoyens une vraie voix au chapitre.
C'est une approche ambitieuse et globale. Mais comment tout cela va-t-il se traduire concrètement sur le terrain?
C'est là que ça devient vraiment intéressant.
Oui. Prenons l'exemple des infrastructures. Quels sont les projets envisagés dans certaines régions?
Par exemple, dans la région de Tangente-Etoinal-Oseima,
oui.
Le CARD prévoit la construction d'un nouveau port, l'extension de l'aéroport international.
D'accord.
Et le développement d'un réseau de transport en commun moderne.
Tout ça pour verrer.
Ces projets visent à renforcer l'attractivité de la région et à stimuler son développement économique.
Et dans la région Tsoumassa, qu'est-ce qui est prévu?
Là, le document, il met l'accent sur le développement de l'agriculture.
Oui.
Et du tourisme. On parle de moderniser les infrastructures d'irrigation.
D'accord.
De promouvoir l'agroécologie.
Oui.
Et de développer de nouveaux produits touristiques.
Tout ça pour raison.
L'objectif, c'est de valoriser le potentiel de la région et de créer des emplois durables.
Intéressant. Chaque région semble avoir sa propre stratégie de développement.
Exactement.
Et du côté de l'investissement, quels sont les secteurs qui sont ciblés dans chaque région? Par exemple, à Casablanca-Ceta.
À Casablanca-Ceta, l'accent est mis sur l'industrie.
D'accord.
Les services financiers et les nouvelles technologies.
Donc, une région tournée vers l'avenir.
Oui, l'objectif, c'est d'attirer les investissements dans ces secteurs clés pour renforcer le rôle de la région comme hub économique, national et régional.
Et à Marrakech, Safi, quels sont les secteurs prioritaires?
Dans cette région, le document, il met l'accent sur le tourisme, l'artisanat et l'agriculture.
Donc, on mise sur les atouts traditionnels de la région.
Exactement. Il propose des mesures pour promouvoir le tourisme durable.
D'accord.
Valoriser l'artisanat local et moderniser l'agriculture.
Le but étant.
Le but, c'est de diversifier l'économie de la région et de créer des emplois dans ces secteurs porteurs.
C'est vraiment fascinant de voir comment chaque région a sa propre stratégie.
Oui, c'est une des forces de ce cadre.
Et en ce qui concerne l'éducation et la santé, comment le cadre prévoit-il de réduire les inégalités entre les régions?
Le document, il propose des mesures pour renforcer les infrastructures.
Oui.
Scolaires, sanitaires, dans les régions les moins bien dotées. Pour former des enseignants et des professionnels de santé qualifiés.
D'accord.
Et pour améliorer l'accès aux services de base pour les populations les plus vulnérables.
C'est essentiel. Mais est-ce que tout cela est réaliste? Quels sont les défis à relever pour concrétiser cette vision?
Il y en a plusieurs. Mobiliser les ressources financières nécessaires. Coordonner les différents acteurs.
Oui.
Et puis mettre en place un système de suivi et d'évaluation efficace.
Donc la réussite dépendra de la capacité du gouvernement à surmonter ces obstacles.
Exactement.
Mais du coup, le document, il aborde les mécanismes de financement de cette régionalisation avancée.
Bien sûr. Il met en avant la nécessité de diversifier les sources de financement.
C'est-à-dire?
Il est question de renforcer les transferts financiers de l'État vers les régions.
D'accord.
De mobiliser les recettes fiscales locales. Et de rechercher des financements extérieurs. L'objectif, c'est de doter les régions des ressources nécessaires pour mener à bien leurs projets de développement.
C'est essentiel. Et en parlant de coordination entre les acteurs, comment le cadre compte-t-il l'assurer? Parce que ça peut être un vrai casse-tête.
Le document met l'accent sur la mise en place de mécanismes de coordination efficaces.
D'accord.
Entre l'État,
oui.
Les régions et les collectivités locales.
Concrètement.
Il prévoit la création de comités de pilotage régionaux. La mise en place de plateformes de dialogue et de concertation.
Oui.
Et le renforcement des capacités des acteurs locaux.
Donc, une approche collaborative.
Exactement. L'objectif, c'est de garantir une cohérence et une synergie des actions menées au niveau régional.
C'est une approche qui semble essentielle. Et enfin, en ce qui concerne le suivi et l'évaluation, qu'est-ce qui est prévu?
Le document prévoit la mise en place d'un système de suivi et d'évaluation rigoureux pour mesurer l'impact de la régionalisation avancée et identifier les points forts et les points faibles du processus.
On ne veut pas naviguer à l'aveugle.
Exactement. Il propose la mise en place d'indicateurs de performance.
D'accord.
La réalisation d'études d'impact et la publication régulière de rapports d'évaluation.
Donc, transparence et redevabilité.
Exactement. L'objectif, c'est de garantir la transparence et la redevabilité du processus de régionalisation avancé.
C'est un élément essentiel pour assurer la réussite de ce projet. Mais au-delà de ces aspects techniques, quel est l'impact potentiel de ce cadre sur la vie des citoyens marocains? Qu'est-ce que ça va changer pour eux concrètement?
Ce cadre, il a le potentiel de transformer la vie des citoyens marocains.
Oui.
En leur offrant de meilleures opportunités.
Mmh.
Et une meilleure qualité de vie.
C'est ambitieux.
Oui. Il peut contribuer à réduire les inégalités régionales.
D'accord.
À stimuler la création d'emplois.
Mmh.
À améliorer l'accès aux services de base.
Oui.
Et à renforcer la participation citoyenne.
C'est d'une vision inspirante. Mais bien sûr, la réussite de ce projet dépendra de sa mise en œuvre concrète. Quels sont les éléments clés à prendre en compte pour assurer une mise en œuvre efficace?
Pour une mise en œuvre efficace,
oui.
Il sera crucial de garantir la participation active des citoyens,
bien sûr.
De mobiliser les ressources nécessaires,
mmh.
De renforcer les capacités des acteurs locaux,
oui.
Et d'assurer un suivi et une évaluation rigoureux.
Tout à fait. Et en parlant de participation citoyenne, comment est-ce que le cadre prévoit de l'encourager? On en a un peu parlé, mais j'aimerais avoir plus de détails.
Le document, il met l'accent sur la mise en place de mécanismes de consultation et de dialogue.
Oui.
Avec les citoyens.
Mm-hmm.
La création d'espaces de participation citoyenne.
D'accord.
Et le renforcement du rôle des organisations de la société civile.
Donc, on mise sur une approche multi-acteurs.
Exactement. L'objectif, c'est de faire des citoyens des acteurs clés du processus de régionalisation avancée.
C'est d'une vision ambitieuse et participative. Mais au-delà du Maroc, pensez-vous que ce cadre de régionalisation avancée puisse inspirer d'autres pays? Est-ce qu'il a des leçons à tirer pour d'autres pays qui cherchent à décentraliser leur gouvernance?
Absolument. Ce cadre marocain, il peut servir de modèle pour d'autres pays
oui.
qui cherchent à promouvoir une gouvernance décentralisée
mm-hmm.
et à stimuler le développement régional.
En quoi est-il inspirant?
Il offre des solutions innovantes.
D'accord.
Et des mécanismes de mise en œuvre
oui.
qui peuvent être adaptés à différents contextes.
C'est vraiment une contribution importante du Maroc au débat sur la gouvernance territoriale. Et en parlant d'inspiration, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce document? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en parler aujourd'hui?
Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'ambition de ce cadre.
Oui.
Et la volonté de transformer en profondeur la gouvernance territoriale du Maroc.
C'est un projet de grande envergure.
Oui. Ce document, il témoigne d'une vision claire. Et d'une volonté politique forte de construire un Maroc plus juste, plus équitable
oui.
et plus prospère.
Pour tous ses citoyens.
Exactement.
C'est une conclusion inspirante. Et pour nos auditeurs, n'hésitez pas à poursuivre la réflexion.
Oui.
Et à partager vos propres analyses sur ce sujet crucial.
Tout à fait.
La régionalisation avancée est un processus en constante évolution.
Absolument.
Et votre contribution est essentielle pour façonner l'avenir des territoires.
Tout à fait d'accord. On a beaucoup parlé des détails du cadre marocain de régionalisation avancée.
Oui, on a vraiment décortiqué le document.
Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est de replacer ce cadre dans un contexte plus large.
D'accord, je vois. On prend un peu de recul.
Exactement. Ce cadre de régionalisation avancée, il s'inscrit dans un mouvement plus large de décentralisation et de gouvernance à plusieurs niveaux.
Oui, c'est vrai. On voit de plus en plus de pays qui cherchent à donner plus de pouvoir aux régions.
Absolument. On parle beaucoup de glocalisation ces derniers temps. C'est cette idée de combiner une vision globale avec des actions locales.
Exactement. Est-ce que ce cadre marocain suit cette tendance?
Absolument. Ce cadre, il met l'accent sur la subsidiarité.
La subsidiarité, qu'est-ce que ça veut dire?
En gros, ça signifie que les décisions doivent être prises au niveau le plus proche des citoyens.
Ah, d'accord, je comprends. Donc, plus de pouvoir aux régions.
Exactement. L'idée, c'est que les régions, elles sont les mieux placées pour comprendre leurs propres besoins.
Oui.
Et trouver des solutions adaptées.
C'est logique. Mais concrètement, comment ce principe de subsidiarité se traduit-il dans le cadre marocain? Y a-t-il des exemples de compétences qui sont transférées de l'État central vers les régions?
Oui, bien sûr. Le document y prévoit le transfert de compétences dans des domaines clés.
Oui.
Comme l'aménagement du territoire, le développement économique, la gestion des ressources naturelles, l'éducation, la santé, la culture.
Donc les régions ont plus de liberté pour élaborer et mettre en œuvre leur propre politique.
Exactement.
C'est un changement important. Mais est-ce que les régions, elles ont les capacités nécessaires pour assumer ces nouvelles responsabilités? Le document Prévoit-il des mesures pour renforcer les compétences des acteurs régionaux?
Absolument. Le cadre prévoit des programmes de formation.
D'accord.
Pour les élus locaux, les fonctionnaires régionaux et les acteurs de la société civile.
L'accent est mis sur quoi?
L'accent est mis sur le développement de compétences en matière de planification, de gestion, de suivi et d'évaluation et de communication.
C'est rassurant. Et en parlant de communication, est-ce que le cadre prévoit des mesures pour assurer la transparence et la communication autour de ce processus de régionalisation avancé? Parce que c'est important que les citoyens soient informés de ce qui se passe.
Oui, bien sûr. Le document, il insiste sur la nécessité d'informer les citoyens sur les progrès de la régionalisation avancée.
Oui.
Et de les impliquer dans la prise de décision.
Concrètement.
Il prévoit la création de plateformes de communication, l'organisation de consultations publiques et la diffusion d'informations régulières.
D'accord.
Sur les projets et les réalisations de chaque région.
C'est crucial pour que les citoyens adhèrent à ce projet. Et en parlant d'adhésion, comment le cadre prend-il en compte la diversité culturelle et linguistique du Maroc? Parce que c'est un pays très riche en culture et en langue.
Le document reconnaît l'importance de cette diversité.
Oui.
Et prévoit des mesures pour la promouvoir.
Quelles mesures?
Il encourage les régions à développer des politiques culturelles et linguistiques qui respectent leurs spécificités locales.
C'est une approche inclusive qui respecte la richesse du Maroc. Et en parlant de richesse, comment le cadre aborde-t-il la question de la répartition des ressources entre les régions? Parce qu'on sait qu'il y a des disparités importantes entre les régions.
Oui, absolument. Le document met en avant la nécessité d'un système de péréquation financière.
De péréquation financière, qu'est-ce que c'est?
C'est un système qui permet une répartition équitable des ressources.
D'accord, je comprends. Et comment ça fonctionne concrètement?
Des transferts financiers de l'État vers les régions, les moins riches, sont prévus pour financer leurs projets de développement et réduire les écarts.
C'est un mécanisme important pour la justice sociale. Et en parlant de justice sociale, comment le cadre aborde-t-il l'inclusion des groupes marginalisés et la lutte contre les discriminations? Parce que c'est un sujet important pour assurer un développement équitable pour tous.
Le document, il insiste sur la promotion de l'inclusion sociale.
Oui.
Et la lutte contre toutes les formes de discrimination. Il encourage les régions à adopter des politiques inclusives qui prennent en compte les besoins des groupes marginalisés.
Comme
les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les populations rurales.
C'est une vision humaniste et progressiste. Et en parlant de progrès, comment le cadre aborde-t-il la transition écologique et le développement durable? Parce qu'on sait que c'est un enjeu majeur pour l'avenir du Maroc.
Le document, il met l'accent sur l'intégration des principes du développement durable dans toutes les politiques régionales. Les régions sont encouragées à adopter des stratégies de développement à faible émission de carbone, à promouvoir les énergies renouvelables, à gérer durablement les ressources naturelles et à protéger la biodiversité.
C'est une vision responsable et tournée vers l'avenir. Et en parlant d'avenir, comment le cadre abordait-il l'innovation et la transformation numérique? Parce que c'est un domaine qui évolue très vite.
Le document met l'accent sur l'innovation et la transformation numérique comme levier du développement régional. Il encourage les régions à investir dans la recherche et le développement, à soutenir les start-up et les entreprises innovantes et à développer les infrastructures numériques.
C'est une vision stratégique pour l'avenir des régions. Et en parlant des visions, est-ce que le document propose une vision à long terme pour la régionalisation avancée au Maroc? Où est-ce qu'on veut aller dans 10 ans, 20 ans?
Oui, absolument. Le document propose une vision à long terme, avec l'objectif de faire des régions des pôles de développement économique, social et culturel, dynamiques et attractifs.
Donc des régions qui rayonnent.
Exactement. Il ambitionne de faire du Maroc un pays décentralisé.
Oui.
Où les régions jouent un rôle moteur dans le développement national.
C'est une vision ambitieuse et inspirante. Mais bien sûr, la réussite de cette vision dépendra de la mise en œuvre concrète du cadre. Quels sont les principaux défis et opportunités liés à cette mise en œuvre?
Les principaux défis?
Oui.
La mobilisation des ressources. La coordination des acteurs.
Oui.
Le renforcement des capacités.
Et
le suivi et l'évaluation.
Et les opportunités?
Les opportunités majeures. La création d'emplois. La réduction des inégalités, la promotion du développement durable et le renforcement de la participation citoyenne.
C'est un résumé clair et concis. Y a-t-il d'autres points clés que vous aimeriez souligner avant de conclure? Des éléments qui vous semblent particulièrement importants?
Oui, j'aimerais souligner l'importance de la dimension territoriale.
La dimension territoriale, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Il ne s'agit pas seulement de transférer des compétences de l'État vers les régions,
D'accord.
mais aussi de repenser l'aménagement du territoire et de promouvoir un développement harmonieux et intégré de toutes les régions du Maroc.
C'est un point essentiel. Et en parlant d'aménagement du territoire, comment le cadre aborde-t-il les relations entre les villes et les campagnes? Parce que c'est souvent un point de tension dans les politiques de développement.
Le document met l'accent sur la nécessité de promouvoir un développement équilibré entre les villes et les campagnes, en favorisant la complémentarité et la synergie entre les espaces urbains
Oui.
et les espaces ruraux.
Concrètement.
Il encourage les régions à adopter des politiques d'aménagement du territoire qui favorisent l'intégration des zones rurales dans le développement économique et social.
C'est une vision d'équilibre et de cohésion territoriale. Et en parlant de cohésion, comment le cadre aborde-t-il la question de la solidarité entre les régions? Parce que la réussite de la régionalisation avancée dépend aussi de la capacité des régions à travailler ensemble.
Le document met l'accent sur la nécessité de renforcer la solidarité entre les régions,
D'accord.
notamment à travers des mécanismes de coopération interrégionale
Oui.
et de partage d'expériences. Il encourage les régions à collaborer sur des projets d'intérêt commun
D'accord.
et à se soutenir mutuellement dans leurs efforts de développement.
C'est une vision de partage et de coopération essentielle pour la réussite de la régionalisation avancée. Et en parlant de réussite, quels sont les principaux indicateurs de succès de ce cadre? Comment savoir si on est sur la bonne voie?
Les principaux indicateurs de succès.
Oui.
La réduction des disparités régionales. La création d'emplois.
Oui.
L'amélioration des conditions de vie des citoyens. Le renforcement de la gouvernance locale.
Oui.
Et la promotion du développement durable.
C'est une liste d'indicateurs clairs et ambitieuses. Et en parlant d'ambition, pensez-vous que ce cadre, il est suffisamment ambitieux pour répondre aux défis auxquels le Maroc est confronté? Est-ce qu'il va vraiment changer les choses?
Oui, je pense que ce cadre, il est suffisamment ambitieux.
D'accord.
Il propose une vision globale et intégrée du développement régional qui s'attaque aux causes profondes des inégalités et des disparités.
Se croire agent.
Mais bien sûr, sa réussite dépendra de la mobilisation de tous les acteurs et de la mise en œuvre efficace des mesures prévues.
C'est une conclusion nuancée et réaliste. Merci pour cette analyse approfondie du cadre marocain de régionalisation avancée. J'espère que nos auditeurs ont maintenant une meilleure compréhension de ce projet ambitieux.
Merci de m'avoir invité.
Et de ses implications pour l'avenir du Maroc.
C'était un plaisir de partager ces réflexions avec vous et les auditeurs. Et si on parlait un peu des implications économiques de ce cadre?
Oui, bien sûr. C'est un aspect important.
Ce cadre, en donnant plus d'autonomie aux régions et en créant un environnement favorable aux affaires, pourrait bien attirer davantage d'investissements étrangers.
Ah oui, c'est vrai. Les entreprises internationales, elles cherchent souvent des pays avec une stabilité politique, une bonne gouvernance et un cadre juridique clair. C'est exactement ce que ce cadre de régionalisation avancée essaie de mettre en place.
Exactement. Et on peut même dire que ce cadre s'inscrit dans une stratégie plus large de développement économique pour le Maroc.
C'est-à-dire?
En stimulant la croissance économique au niveau régional, on contribue à la prospérité du pays dans son ensemble. Et en diversifiant les sources de croissance, on renforce la résilience de l'économie marocaine face aux crises et aux fluctuations mondiales.
C'est une approche intelligente. Mais du coup, est-ce que ce cadre, il s'articule avec d'autres initiatives nationales?
Oui.
Comme le plan Maroc vert ou la stratégie industrielle?
Absolument. Ce cadre, il a été pensé pour être complémentaire aux autres stratégies nationales de développement. Par exemple, le plan Maroc vert vise à moderniser l'agriculture et à la rendre plus compétitive. La régionalisation avancée peut faciliter la mise en œuvre de ce plan en permettant aux régions de développer des stratégies agricoles adaptées à leurs spécificités locales.
Donc on a un cadre qui est à la fois ambitieux et pragmatique, qui vise à transformer la gouvernance du Maroc, tout en s'inscrivant dans une vision globale de développement économique et social. C'est assez impressionnant.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est que ce cadre, il ne se contente pas de copier des modèles étrangers. Il s'inspire des meilleures pratiques internationales, tout en tenant compte du contexte marocain.
C'est important de trouver un modèle qui correspond à la réalité du terrain. Mais justement, quels sont les obstacles potentiels à la mise en œuvre de ce cadre? On a parlé des défis, mais y a-t-il des risques majeurs, des choses qui pourraient faire dérailler le processus?
Bien sûr, la mise en œuvre d'un projet de cette envergure ne se fera pas sans heurts. Un des principaux risques, c'est la résistance au changement. Transférer des compétences de l'État vers les régions peut créer des tensions et des conflits d'intérêts. Il faudra gérer ces tensions de manière constructive et trouver des solutions qui conviennent à tous.
Oui, le changement peut être difficile à accepter. Le document, il prévoit des mesures pour accompagner cette transition et faciliter le passage à ce nouveau modèle.
Oui, absolument. Le document insiste sur l'importance de la formation et de l'accompagnement des acteurs locaux. Il propose des programmes de renforcement, des capacités pour les élus locaux, les fonctionnaires régionaux et les acteurs de la société civile. La communication est aussi un élément clé pour expliquer les enjeux de la régionalisation avancée et impliquer les citoyens dans le processus.
On a beaucoup parlé des aspects institutionnels et économiques de la régionalisation. Mais est-ce que ce cadre y prend aussi en compte les aspects sociaux et culturels ?
Bien sûr. Le document reconnaît l'importance de la cohésion sociale et du développement humain. Il encourage les régions à investir dans l'éducation, la santé, la culture et le sport. Il met aussi l'accent sur l'inclusion sociale et la lutte contre les discriminations.
C'est une vision complète et humaine. Pour conclure, quel message souhaitez-vous transmettre à nos auditeurs qui s'intéressent à la régionalisation avancée au Maroc ? Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ?
La régionalisation avancée, c'est un processus en cours qui offre des opportunités incroyables pour le développement du Maroc. C'est un projet collectif qui demande l'engagement de tous. L'État, les régions, les collectivités locales, la société civile et les citoyens. En travaillant ensemble, nous pouvons faire de la régionalisation avancée un véritable moteur de progrès et de prospérité pour tout le Maroc.
C'est un message inspirant. Merci beaucoup pour cette plongée fascinante dans le monde de la régionalisation avancée au Maroc.
Merci à vous de m'avoir invité. C'était un plaisir de partager ces réflexions avec vous et vos auditeurs.
Et à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à poursuivre la réflexion et à partager vos analyses sur ce sujet crucial. La régionalisation avancée est un processus en constante évolution et votre contribution est essentielle pour façonner l'avenir des territoires. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les sujets qui vous passionnent.